Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le pape se rendra en Terre Sainte du 24 au 26 mai prochain, un voyage qu'il a officialisé ce dimanche à l'issue de l'Angélus, un voyage 50 ans après la visite historique de Paul VI. François l'a présenté comme un pèlerinage de prière. Il y rencontrera notamment le patriarche de Constantinople. Nous entendrons Mgr Chomaly, l'évêque auxiliaire et vicaire patriarcal pour Jérusalem. Le pape qui est revenu ce dimanche sur le sens de Noël au cours de l'Angélus, l'incarnation d'un Dieu qui chemine avec chacun de nous. Dans la deuxième partie de ce magazine, premier invité du dimanche de cette année, nous entendrons Xavier Lacroix, théologien et auteur de nombreux ouvrages sur le couple et la famille. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le pape a donc officialisé ce dimanche son prochain voyage en Terre Sainte. Le souverain pontife s'y rendra du 24 au 26 mai prochain. Le pape a annoncé lui-même à l'issue de la prière de l'Angélus ce voyage qui était prévu et qui fera trois étapes, Amman, la capitale jordanienne, puis Bethléem et enfin Jérusalem. Cette visite se veut un pèlerinage de prière, comme l'a annoncé lui-même François, et dont le but principal est de commémorer la visite historique de Paul VI en Terre Sainte il y a tout juste 50 ans. Parmi les temps forts prévus de ce voyage, la rencontre œcuménique qui sera célébrée au Saint-Sépulcre avec tous les représentants des églises chrétiennes de Jérusalem, ainsi que le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholoméos Ier. Il y a 50 ans, en plein Concile Vatican II, dialogue interreligieux et œcuménisme furent au cœur de la visite de Paul VI en Terre Sainte du 4 au 6 janvier 1964. Paul VI voulait à la fois ramener l'Église vers sa source, le Christ, mais aussi l'élargir au contact d'autres cultures lors de ce premier déplacement d'un pape en avion et de ce premier voyage d'un souverain pontife à l'étranger depuis l'époque des guerres napoléoniennes. Un voyage historique qui avait été particulièrement médiatisé. Mgr William Chomaly, l'évêque auxiliaire et vicaire patriarcal pour Jérusalem, réagit à l'annonce de la venue du pape François en Terre Sainte.
Nous allons vivre un moment historique avec le pèlerinage du pape François en mai prochain. Nous avons commencé les préparatifs et nous comptons beaucoup sur cette visite, surtout du point de vue œcuménique et du point de vue interreligieux. Du point de vue œcuménique, le pape va faire une rencontre avec les chefs religieux chrétiens. Nous sommes en train de préparer cette rencontre. Il rencontrera le patriarche Bartholomée, le successeur d'Athénagoras. Cette embrassade entre les deux sera vraiment un autre événement historique. Mais nous ne voulons pas seulement des émotions. Nous attendons aussi que les relations entre les églises, surtout le problème du primat, soit résolu d'une façon acceptable pour les deux, car le problème, le nœud principal entre orthodoxes et catholiques, c'est le problème du primat. Ils n'acceptent pas le primat du pape comme les catholiques l'acceptent. Donc nous voudrions vraiment, nous prions pour qu'il y ait une ouverture de la part des orthodoxes et des catholiques. Du point de vue interreligieux, le pape rencontrera certainement les chefs musulmans et aussi les rabbins à Jérusalem. Nous attendons vraiment une ouverture aussi interreligieuse. Il y a beaucoup d'attentes, pas seulement chez les chrétiens, mais même chez les musulmans et chez les juifs, pour avoir vraiment des fruits pour cette visite. Cette visite, on peut la comparer à celle de Paul VI, qui était un début. Celle de Paul VI a gardé comme souvenir la collade entre lui et Athénagoras. C'était vraiment un début. Et on avait, un peu avant, l'excommunication entre les églises. Donc cette visite est venue pour couronner les efforts du Concile Vatican II dans le camp œcuménique. Donc nous pensons que cette visite du pape François sera dans la même ligne des autres papes, mais continuera à intensifier les rapports œcuméniques et interreligieux.
Des propos recueillis par nos confrères de la rédaction italienne. Et un peu plus tôt, au cours de la prière de l'Angélus, le pape est revenu sur le sens de Noël en reprenant le prologue de l'évangile de Jean. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Tout le christianisme est contenu dans ces paroles qui n'en finissent pas de nous émerveiller, a souligné François, devant les milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre malgré la pluie. Marie Duhamel.
En s'incarnant, Dieu s'est fait fragile, comme nous. Il a partagé notre condition humaine, excepté le péché, mais il a pris sur lui les nôtres. La naissance de Jésus, a rappelé le pape ce dimanche, montre que Dieu a voulu s'unir à chaque homme et chaque femme, à chacun de nous, pour nous communiquer sa vie, sa joie. Avec la naissance du Christ, a poursuivi François, est née une promesse nouvelle, un monde nouveau qui peut toujours être renouvelé. Dieu est en effet toujours présent pour susciter des hommes nouveaux, a-t-il souligné, purifier le monde du péché, et sa présence dans l'histoire auprès de chacun d'entre nous n'a jamais fait défaut. Le pape a enfin expliqué que dans le mystère de l'incarnation se jouait aussi la liberté de l'homme, celle d'accueillir Dieu ou de le rejeter comme le fut Jésus, ainsi que le raconte l'évangile de Jean. Jésus ne cesse pourtant jamais de s'offrir lui-même et de nous offrir sa grâce salvifique. Jésus est patient, il sait attendre, il attend toujours, à marteler François, qui invitait tous les croyants à être des témoins de la joie du message de l'Évangile, de la lumière, de l'espérance et de l'amour.
Le pape qui a profité de l'Angélus pour remercier tous ceux qui lui ont transmis des vœux à l'occasion de la fête de Noël. Ces dernières semaines, énormément de messages de vœux me sont arrivés du monde entier pour Noël et le Nouvel An. J'aimerais beaucoup y répondre, mais malheureusement, il m'est impossible de le faire pour tous, a dit le Saint-Père. Le pape qui a ainsi remercié ceux qui ont voulu lui manifester leur affection et leur proximité, les jeunes, les personnes âgées, les communautés paroissiales et religieuses, les associations ou les mouvements. François qui a insisté tout particulièrement sur les dessins que lui ont fait parvenir les enfants. Et à noter que ce lundi, jour de la fête de l'Épiphanie, le pape se rendra dans l'après-midi dans une paroisse de Rome, située au nord de la capitale italienne, à l'invitation de ses paroissiens. Le souverain pontife qui assistera notamment à une crèche vivante réalisée par les paroissiens. L'église Saint-Odile dans le nord-ouest de Paris a été profanée ce week-end. Samedi, un homme isolé s'en est pris à l'autel et plusieurs statues ont été sérieusement endommagées. Selon le diocèse de Paris, l'homme, dont les motivations restent inconnues, aurait notamment cassé des chandeliers, une statue, ouvert le baptistère et endommagé l'autel de l'église avant de prendre la fuite. Des paroissiens l'ont surpris pendant la profanation et l'ont pris en chasse, mais l'homme a pu s'enfuir. Le curé de l'église Saint-Odile a porté plainte et une enquête a été ouverte. Des dizaines de milliers de migrants africains ont défilé ce dimanche dans le centre de Tel Aviv, en Israël. Ils ont dénoncé le refus des autorités israéliennes d'examiner leur demande de statut de réfugiés, ainsi que le placement en rétention de centaines d'entre eux. Parmi ces demandeurs d'asile, de très nombreux Éthiopiens et Érythréens. « Nous avons fui des persécutions, des dictatures, des guerres civiles, des génocides. Le gouvernement d'Israël doit étudier nos demandes d'asile et nous traiter comme des êtres humains », a déclaré à l'AFP un Érythréen entré illégalement dans le pays il y a 4 ans. Pas sûr cependant que les autorités voient cette mobilisation d'un bon œil. L'an passé, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'était dit déterminé à expulser les dizaines de milliers de migrants clandestins. Ce dimanche encore, le ministre de l'Intérieur de l'État hébreu a affirmé que cette manifestation était un signal d'alarme pour agir contre les clandestins, ajoutant que Tel Aviv était devenue, selon lui, une ville africaine. Pour la deuxième partie de ce magazine, notre premier invité du dimanche de l'année 2014 est Xavier Lacroix, marié et père de 3 enfants. Il est théologien, a été professeur de théologie morale à la faculté de théologie de Lyon, dont il a été le doyen. Xavier Lacroix a aussi été le directeur de l'Institut des sciences de la famille de Lyon. Auteur de nombreux ouvrages sur le couple et la famille, il a siégé 17 ans au Conseil national de la pastorale familiale jusqu'en 2004 et il est régulièrement sollicité comme expert par les médias sur ces questions. Interrogé par Catherine Aubin, Xavier Lacroix nous parle de l'importance de la phénoménologie dans son parcours de théologien, mais nous partage aussi les difficultés actuelles liées à la famille et l'importance de la place du père.
Xavier Lacroix, vous avez été professeur de théologie et de philosophie à l'université à Lyon. Vous avez été aussi doyen de la faculté. Quelles ont été les rencontres ou les moments importants dans votre parcours qui ont déterminé votre intérêt pour la famille, pour le couple, pour la place du corps, la place de la chair ?
Il y a d'abord eu la phénoménologie. La phénoménologie, donc, est une école de pensée qui fait attention au sentir. Ce que je retiens le plus, c'est l'unité de sens des trois sens du mot « sens ». Puisque le mot « sens » signifie à la fois sensation, orientation, comme vous le savez, et signification, bien sûr. Donc l'unité de ces trois choses-là, la signification est déjà comprise dans la sensation. Donc on m'avait rendu sensible à l'importance du corps depuis assez longtemps. Et puis, donc, je dirais, en deuxième lieu, ça a été la rencontre avec Henri Bourgeois. Henri Bourgeois qui, d'une part, avait écrit un livre, je crois, en la résurrection des corps, donc sensible à ce thème-là, la résurrection des corps. D'autre part, était doyen de la faculté de théologie à l'époque et m'a demandé de prendre le cours d'éthique sexuelle. En même temps, le recteur Gérard Defoix m'a demandé de prendre la direction de l'Institut des sciences de la famille. Donc cette convergence entre l'Institut des sciences de la famille et le cours d'éthique sexuelle m'est apparue avec mon passé donc de phénoménologue. Donc tout ça a convergé et j'ai accepté.
Quel avenir pour la famille, Xavier Lacroix ? Vous êtes, rappelons-le, marié, père de plusieurs enfants.
Voilà, père et grand-père. Donc je ne sais pas quel est l'avenir de la famille dans la mesure où je ne suis pas prophète, mais ce qui est certain, c'est que je vois bien les débats actuels autour de la famille. Et donc actuellement, je me bats beaucoup pour que la famille reste centrée sur le couple et le couple stable, le couple durable. Pas seulement, comme on entend dire beaucoup, sur l'enfant. Parce que d'un côté, on entend dire que c'est l'enfant qui fait la famille, ce qui est faux, me semble-t-il, parce que si les parents ne s'entendent pas, bien, ils se sépareront sans tenir tellement compte de l'intérêt de l'enfant. Et un des deux, généralement le père, 9 fois sur 10, c'est le père, s'en ira. Donc je ne pense pas que l'enfant fasse vraiment la famille. Je pense que pour faire famille, rien ne vaut l'alliance forte, solide, durable entre l'homme et la femme. D'autre part, je pense que la famille est le lieu de la génération, de la naissance. Et actuellement, j'entends beaucoup dire que la génération n'est pas importante, que le biologique n'est pas important, que ce qui compte, c'est l'amour, c'est l'éducation. Il est vrai que l'amour et l'éducation sont peut-être le principal. Mais je pense que si le corps n'est pas tout, comme je dis souvent, il n'est pas tout, mais il n'est pas rien. Et donc le fait d'avoir un corps, d'être né de l'union de deux corps, ce n'est pas rien. Et donc le père et la mère sont aussi ceux qui ont donné la naissance. Et même les enfants adoptifs sont nés. Et le fait que leur naissance soit séparée de leur filiation leur pose souvent question. Quand on dissocie filiation et naissance, il y a problème. Donc je pense qu'il faut continuer à fonder la famille sur le couple durable, d'une part, et sur la relation entre le corps et la parole, d'autre part.
Quelles sont les difficultés majeures que vous pointez aujourd'hui ?
Eh bien, les principales difficultés que je pointe sont la fonction du père, parce que je crois que le rôle du père est actuellement très souvent objet de doutes, d'incertitudes, et d'autre part, le lien entre parenté et conjugalité. Parce que rien ne vaut pour fonder une parenté solide et durable, une conjugalité elle-même solide et durable. Parce que quand la conjugalité explose, eh bien, la parenté aussi finalement est atteinte. Parce que quand un des deux s'en va, d'une part l'autre reste seul. Je pense qu'il n'est pas facile d'être à la tête d'une famille dite monoparentale. Et d'autre part, je pense qu'il n'est pas facile non plus d'être le père par intermittence.
Qu'est-ce que vous entendez par conjugalité ?
Le fait d'être en couple, d'être marié de préférence, parce que je pense que c'est dans le mariage que la conjugalité trouve sa pleine dimension, sa pleine expression. Donc le fait d'être un couple marié, ou au moins donc qui vit durablement ensemble et qui surmonte les crises. J'appelle conjugal le couple capable de surmonter les crises. Je pense que c'est dans le mariage, dans le cadre de l'institution matrimoniale, que le couple trouve son meilleur fondement, que je pense que rien ne vaut la parole solennelle d'engagement. Veux-tu être mon épouse ? Veux-tu être mon époux ? Je me donne à toi pour durer ensemble tout au long de notre vie. Donc je pense que rien ne vaut cela comme fondement du couple.
Alors vous avez pointé là le problème du père. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'un des problèmes de la famille est le problème de la parole ?
Oui, je pense de la parole. Donc d'une part de l'expression, ce n'est pas le lieu où l'on parle le mieux, la famille, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et d'autre part, l'articulation entre le corps et la parole. Parce qu'il est certain que le corps dans la famille a beaucoup d'importance. La famille est le lieu des repas, le lieu de la génération, de la sexualité, de la filiation, etc. Et cela passe par le corps. Mais donc je pense aussi que la famille est un lieu où l'on gagne à parler. Elle repose aussi sur la parole, sur l'engagement mutuel. Tu es mon fils, ma fille, bien-aimée, en qui je trouve ma joie. Donc cela peut être implicite, mais c'est ce qui est dit au fond. Et donc la parole est importante. Et actuellement, donc, je lis des enquêtes qui montrent que la famille n'est pas le premier lieu où l'on parle. En un sens, c'est normal d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément à ses parents ou à ses frères et sœurs ou à ses enfants qu'on a le plus envie de se confier. Donc c'est tout à fait normal.
Dans la Bible, ce qui est paradoxal, c'est que c'est dans les familles bibliques que ont lieu les crises de violence les plus fortes.
Oui, parce que parfois la famille est idéalisée et parfois donc on en parle uniquement en termes d'amour, de reconnaissance, de tendresse. C'est bien, c'est vrai. Je crois que la famille est un des premiers lieux du don et de l'amour, c'est absolument certain. N'empêche que dans la Bible, la première génération, donc Caïn et Abel, a commencé par la violence. Et je lis ici et là, chez des sociologues, l'idée que la majorité des crimes de sang, des crimes violents, ont lieu en famille. Donc la famille peut être aussi le lieu de violence ou d'agressivité ou d'incompréhension ou de déception. J'aime beaucoup un proverbe chinois qui dit « Aucune famille ne peut poser cet écriteau au-dessus de sa porte, ici nous n'avons aucun problème ».
Comment arriver d'une part à nommer cette violence et comment en sortir ? Quelles sont les voies d'issue pour sortir de cette violence familiale ?
D'une part, je pense qu'il y a une grosse différence entre faire face et programmer. Donc on fait face comme on peut aux difficultés de la vie telles qu'elles sont. Nous sommes tous imparfaits et la conjugalité, la famille sont des premiers lieux de révélation de nos vulnérabilités. Donc on fait face et on ne porte pas de jugement sur les personnes. Ça c'est une première chose. Et puis on aide au maximum les gens, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc faire face est une chose. Mais programmer est autre chose. Programmer, donc, c'est prévoir d'avance qu'un enfant naîtra sans père ou sans mère, ou avec deux pères ou deux mères, ce qui est faux, ce qui est illusoire. Donc c'est prévoir d'avance, vous voyez, c'est vouloir un cadre institutionnel à ce qui relève du manque ou du mensonge. C'est autre chose. Et d'autre part, je pense qu'il est important de dire le manque. Ce n'est pas parce qu'un enfant n'entend jamais parler du père qu'il ne manque pas de père, par exemple. On m'a dit qu'il y a des écoles où on ne parle pas des papas parce qu'il y a des enfants de la classe qui n'ont pas de papa. Il y a des écoles où on ne fait plus la fête des pères parce que beaucoup d'enfants n'ont pas de père. Ce n'est pas parce que l'on tait, parce que l'on passe sous silence un manque, qu'on pallie ce manque. Et au contraire, je crois que ceux qui souffrent d'un manque gagnent parfois à l'entendre dire. Et entendre parler de ce qui leur manque leur fait du bien.
Xavier Lacroix, un de vos champs de recherche, c'est aussi le corps de chair, c'est le titre d'un de vos livres, et vous y parlez aussi beaucoup de la tendresse. Vous pourriez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la tendresse dont tous nous avons besoin ?
J'affirme que la chair, le corps et le biologique sont trois notions différentes. Donc le corps est une notion d'origine sociale, on parle de corps médical, de corps d'un bâtiment, de corps diplomatique. Tandis que la chair, c'est le corps vécu de l'intérieur. Dans la Bible, d'ailleurs, il n'y a que ce mot, le mot bassar. C'est le corps vivant et animé, et associé dans la Bible à la vulnérabilité, qui est vulnérable aussi, animé et vulnérable. Tandis que l'amour, c'est autre chose. Enfin, l'amour, donc, c'est important, mais c'est plus que la tendresse. L'amour, c'est vraiment la reconnaissance d'un infini dans l'autre, la perception de la personne de l'autre, voir l'autre comme infini, comme personne. La tendresse, c'est d'éprouver du sentiment, c'est que le cœur de dur devienne tendre. Donc le cœur devient tendre, cesse d'être dur, est sensible, vulnérable, accessible à l'autre, c'est important. C'est la première ouverture à l'autre. Mais ce n'est pas suffisant dans la mesure où on peut s'y complaire et où l'amour va plus loin encore. C'est vraiment l'acceptation de l'autre tel qu'il est, dans son altérité, avec ses qualités, certes, mais avec ses défauts aussi.
Quand vous regardez un petit peu les 10 dernières années et que vous regardez aussi devant, Xavier Lacroix, quelles sont vos sources d'espérance ?
Les sources d'espérance, justement, c'est l'importance du corps. Je crois que le corps va continuer à nous suggérer des significations. Par exemple, il va continuer à naître. Et on va éprouver que chacun est né de l'union d'un homme et d'une femme et est porté par le ventre d'une femme. Donc je crois que chacun va continuer à apprécier aussi le charme d'un matin d'été. Donc les sensations, le sens va continuer à nous parler et je crois qu'on va toujours recevoir des vérités de cela. Je cite souvent la phrase du père Joseph de Finance qui disait « Il y a dans le sentir quelque chose que la pensée pure ne rejoindra jamais ». Le rôle des sensations et du corps va toujours rester prégnant et nous sauver des aberrations de la raison.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Xavier Lacroix, vous qui êtes père et grand-père ?
De vivre la conjugalité toujours comme une richesse et la découverte de l'autre comme un jamais fini.
C'était le théologien Xavier Lacroix. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.